Il est 8h47, la revue de presse Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Et Claude, on parle de police.
Et des policiers parlent dans la Croix l'Hebdo de leur propre violence qui les fait basculer quand ils ont trop subi. Laurent se souvient qu'un jour, il attrapa un garçon d'une quinzaine d'années près de sa maison. Je me vois encore, le poing levé, prêt à lui exploser la gueule. Heureusement, j'ai vu ses yeux. Je crois que si je lui avais mis le premier coup, je l'aurais vraiment tué. Le gamin revenait juste d'une soirée, mais Laurent vivait dans la haine. Il était un jeune policier d'une brigade anticriminalité et quelques jours plus tôt, on avait jeté un cocktail Molotov sur sa maison. Sa femme à l'intérieur. Laurent a quitté la ville, il a eu un enfant, il est toujours policier. Un jour, il avait demandé à son chef s'il devenait un monstre. Combien de Laurent dans la police, dont le monde change au premier coup de boule, qu'ils reçoivent dans leur premier poste? Combien de Laurent, depuis un an maintenant, face aux gilets jaunes, quand les sportifs des brigades anticriminalité sont venus percuter les manifestations pour soulager les collègues qui reculaient? On est là pour avoir un impact physique, disent les baqueux à la Croix, tel un remplaçant du 15 de France qui renforce le PAC. Le rugby va continuer. Ayant lu La Croix, on comprend mieux le scoop de Libération qui rapporte un document de travail du ministère de l'Intérieur. Les policiers vont continuer d'aller au contact physique des manifestants. La doctrine élaborée contre les gilets jaunes est prorogée. Fini l'évitement qui minimisait les bavures. La police a retrouvé la bagarre et le pouvoir y a pris goût. Mais la doctrine a des conséquences. Libération raconte aussi les gueules cassées des violences policières, les dents perdues de Yannick qui ne les a jamais fait remplacer. Soit je paye une mutuelle, soit je paye mon assurance logement et bagnole. Yannick mâche à gauche, il s'est radicalisé. Ainsi, de bon journal à bon journal, de nuances en scrupules, se dessine la vérité. La Nouvelle République me dit que c'est à Tours que les commerçants ont le plus pâti des gilets jaunes. Les Échos me disent que les banques ont bien souffert aussi, mais les Échos ajoutent que ces mêmes gilets jaunes, obtenant 17 milliards du pouvoir, lui ont permis de devenir keynésien. C'est un compliment, mais qui veut des nuances à l'ère des certitudes ? Des États-Unis viennent de mauvaises nouvelles que le New York Times rapporte. Là-bas, des jeunes progressistes ne veulent plus de journalisme. Le journal de l'université de Northwestern a dû s'excuser d'avoir pris en photo des étudiants de gauche qui manifestaient contre un ancien ministre de Trump, s'excuser d'avoir fait son métier. À Harvard, le Crimson, institution de journalisme étudiant, ne s'excuse pas, mais est boycotté et désavoué par le conseil des étudiants de la fac, ayant couvert une manifestation de soutien aux migrants illégaux. Le Crimson a demandé une réaction à l'administration des frontières, démarche journalistique de base, mais qui, pour les militants, est un pacte avec l'ennemi. Je lis dans Le Monde que le nouveau procureur de San Francisco, Keza Boudin, est le fils de militants terroristes d'extrême gauche des années 70. Keza est-il un fils ou un juriste ou les deux? Il veut lutter contre les discriminations dans un système judiciaire qu'il qualifie de raciste. Il a fait un stage jeune homme près du président Chavez de la révolution bolivarienne au Venezuela. Aime-t-il les journaux?
Et puis on parle de grands projets, Claude.
Que poussent les pouvoirs ou la nécessité? Aux Pays-Bas, en quête du point, la lutte ancestrale a repris contre les eaux dont la menace augmente avec le réchauffement climatique. On me parle barrages et grands travaux et pacte avec la nature, mais faudra-t-il dans un siècle évacuer la Hollande vers l'Allemagne? En Inde, c'est dans le magazine des Échos, le Premier ministre Modi veut rendre l'hygiène à son peuple et fait équiper les campagnes en toilettes sèches. Oui, mais des enfants intouchables ont été lynchés pour avoir fait quand même leurs besoins dehors et d'autres Indiens d'une caste inférieure, les Balkimis, voient leur tournant augmenter. Ce sont eux qui nettoient les égouts et les fosses septiques armés d'une simple pelle. Ils prient avant de plonger dans le cloaque. Nos dilemmes sont plus tendres. Savourez, mes amis, dans Society, une enquête sur la restauration, qui est le monde des chefs célèbres et l'horizon branché des élites urbaines, qui ouvrent des restos qui souvent se ressemblent, où l'apparence prime le goût. Et par la faute d'Instagram, qui osera servir des mojettes avec de la poutargue et un jus de citron? Plat formidablement bon, dit le critique François Simon, mais qui sur la photo semble, je cite, un dégueulis marron. Le Monde pose une question après une semaine où l'on a trop parlé d'étoiles en politique. Pourquoi, au fait, n'y a-t-il pas de resto étoilé, cachère ou halal? Peut-on manger de la grande cuisine tout en respectant les principes de religion qui bannissent le porc, qui excluent les juifs, la viande sauce au beurre et les musulmans, la saveur du vin? Réponse oui, mais il faut être malin. La vie catholique m'invite à bien manger, ce qui est une éthique faite de bio et de partage. Et on me rappelle que le Christ dépassa les interdits alimentaires, car seule la mauvaise parole est impure. Le Christ mangeait avec tous et de tout et mettait les discussions au centre de la table. Dans la Sarthe, Lige, dans le Maine-et-Libre, on mange excellemment au food truck de Valérie, qui régale de taloa du Pays Basque les adeptes du marché de Solesmes où des moines chantent en grégorien.
Et du courage pour finir, Claude.
Ou simplement la vie qui anime dans le Parisien week-end Théo Curin, amputé des deux mains des deux pieds, mais beau mots comme statue grecque et champion de natation. La vie, qui porte un bonhomme que me raconte le site de l'équipe et aussi SoFoot, il se fait appeler Paulo Breitner, hommage à un footballeur allemand des années 70. Il a eu de la malchance, il était SDF, il ne tenait que par l'écoute d'une émission de radio de nos concurrents de RMC, l'Afterfoot, où l'on dispute football comme au Café des Sports. Au culot, Paulo se brancha sur l'émission et se retrouva un jour de l'hiver 2009 en direct sur l'antenne depuis une cabine téléphonique, pelant de froid, ne sachant pas si les mots lui viendraient car il n'avait pas parlé depuis un an. Et puis, la barbe jusqu'à la poitrine, aspergée de parfum, il alla à RMC, se retrouva adopté dans le studio des polémistes. Paulo, chaque jour, se souvint qu'il dormit dans la rue. Il veut écrire désormais un bouquin sur l'histoire des bains-douches de Paris.